Le Caliberté, chroniqueur. Oh! Donc, Max s'est amusé, hein? Le Caliberté, comment vas-tu? On t'a accueilli avec de la musique latino, tiens. Je sais pas comment Max a fini son émission. Il était avec Mathias.
C'est de ma faute parce qu'hier j'étais au centre Vidéotron pour Tactica et Florida.
Bon, Tactica?
Tactica, les gars, ils ont vécu leur trip de vie, là. Ils ont toujours voulu faire une grande salle.
Nice.
Mais c'était super drôle. Il y avait des gens figés dans les années 2000. C'était un gros party.
Ah, que j'aime ça.
Bon, il repart la musique.
Ouais, c'est ça. Ça repart, là. Ça marche plus, là, cette affaire-là. Fait que c'était bon?
Oui, c'était vraiment une belle soirée.
Excellent. Je repartais la musique parce que Luc, écoute bien ça. C'est une nouveauté de Bryan Adams qui va être offert au public canadien ce mercredi. When you're talking about my home. C'est 51 State, Luc, la chanson de Bryan Adams. Et évidemment, ça parle du président américain qui ne traite pas le Canada avec respect. Ça va être disponible en version longue le 1er juillet. Et ça tombe bien parce que dans notre émission spéciale canadienne le 1er juillet, avec les meilleures chansons canadiennes de à l'heure, vous allez avoir en plus deux fois durant l'émission de Colosse dans le boulevard du rock. La chanson 51 State. Enfin, un artiste qui va parler de nous.
Donc, bonjour. Et écoute, avec Bryan Adams, vous me faites un très, très grand plaisir parce que c'est le premier concert à vie auquel j'ai assisté. C'est un concert de Bryan Adams, donc le synchronisme ne pourrait pas être plus parfait. Lien entre mon premier show, mon premier spectacle à vie et un segment sur les États-Unis.
Luc, avant de parler de ces négociations qui n'en finissent plus entre l'Iran et les États-Unis, de ces bombardements qui recommencent toujours, trois lourdes défaites pour Donald Trump en Cour suprême. Ouf, c'est une semaine qui commence pas bien à la veille des célébrations du 4 juillet.
Voilà, le président, si vous suivez son Truth Social, si vous suivez son compte et ses entrées à lui... On a l'impression que tout s'est bien déroulé depuis le réveil ce matin. Il faut dire, on pourrait y revenir, qu'il a une victoire, donc qui est très précieuse pour lui, mais qui était poussée puis défendue par les conservateurs depuis très, très longtemps. Maintenant, de son côté, pour ce qui est du volet un petit peu plus, je pense qu'on peut dire négatif dans ce cas-ci, peut-être que les auditeurs, auditrices, donc, se souviennent de cette cause, de cette poursuite intentée contre Donald Trump pour agression sexuelle. Et on se souviendra qu'en 2023, Donald Trump a été reconnu coupable d'agression sexuelle et il devait, décision du jury donc et du juge, il devait verser 5 millions de dollars à E. Jean Carroll. C'était grosso modo 2 millions de dollars pour l'agression sexuelle et 3 millions pour diffamation. Et Donald Trump, c'est sa stratégie depuis des années, bien avant qu'il n'entre en politique. Il le faisait comme homme d'affaires, comme gestionnaire de casino. Il va devant les tribunaux, étire tous les recours ou épuise tous les recours, joue sur la patience, bien sûr, des personnes avec lesquelles il se retrouve au tribunal. Mais finalement, c'est arrivé à la Cour suprême. Il lui disait « je vais en appel, je pense être en mesure de ne pas avoir à payer » ou qu'on invalide tout simplement tout ça. Et la Cour suprême n'a même pas fourni de justificatif en disant « on ne se prononce pas, on refuse d'entendre cet appel ». Donc, Donald Trump devra verser avec intérêt 5 millions de dollars pour ce jugement. Sinon, vous vous souvenez peut-être aussi, parce que les élections approchent, mine de rien, Donald Trump attendait depuis longtemps un jugement sur le vote par la poste, mais le vote qui était dépouillé ou compté après la journée du scrutin. On imagine, par exemple, une élection un 4 novembre. Bien, on avait le droit à 5 jours pour dépouiller le scrutin si le bulletin de vote avait été déposé la journée du vote. Pour Donald Trump et pour plusieurs républicains, on disait non, on ne veut pas de ça. C'est là où réside une grosse partie de la fraude. Il faut rappeler qu'il n'y en a pas de fraude. Mais donc, eux disaient c'est frauduleux comme pratique et on veut mettre fin à ça. Et aujourd'hui, la Cour suprême a dit non. Ça concernait surtout un État du Sud, mais ça vaut donc pour l'ensemble des États où on comptabilise les votes acheminés par la poste après le jour du scrutin. Mais grosso modo, le délai est maintenu. Donc, pour le président, c'est pour lui personnellement parce qu'il poussait ça. Donc, c'est une défaite. Et finalement, il ne pourra pas non plus, comme il l'avait annoncé, congédier la gouverneure de la Réserve fédérale de la Fed, Lisa Cook. Par contre, le plus haut tribunal, la Cour suprême, lui a donné à lui, et bien sûr au pouvoir exécutif, à tous ceux ou celles qui vont suivre Donald Trump, on lui a donné le pouvoir de congédier à peu près tout ce qu'il y a ailleurs dans les agences fédérales dont on disait depuis 91 ans qu'elles étaient à l'abri, ou qu'ils étaient à l'abri, les employés et les dirigeants, de l'arbitraire. C'est-à-dire que ça ne pouvait pas être le président qui décide si vous maintenez votre emploi ou pas. Alors ça, c'est majeur. Donald Trump a perdu pour la Fed. C'est vraiment une exception et je ne la comprends pas parce que c'est une agence comme toutes les autres, finalement. La Cour suprême a dit, ben allons-y avec la tradition dans ce cas-là puis le caractère particulier de la Réserve fédérale. Mais sinon, pour toutes les agences fédérales, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un nouveau patron à la Maison-Blanche, il y a un nouveau président, il a le droit de nommer des gens qui sont fidèles, qui lui sont d'abord loyaux. Pour ceux qui aiment Donald Trump, on est content. Mais pour ceux qui aiment l'indépendance des agences ou du pouvoir ou qui veulent éviter justement qu'un président ne nomme que des gens qui lui sont fidèles et loyaux, bien, à moyen et long terme, je ne pense pas qu'on puisse voir ça favorablement. Mais c'est un gros gain pour les conservateurs. On a renversé 91 années d'application, donc d'une mesure bien précise qui disait « ces gens-là sont indépendants, le président ne peut pas les congédier ».
C'est beaucoup de défaites pour Donald Trump dans ce que tu nous as évoqué. Depuis des mois, on attend qu'il y ait quelque chose qui se passe, qu'il y ait au moins un genre de manque de pouvoir pour Donald Trump. Est-ce qu'on peut voir ça venir ou on est encore dans le statu quo?
C'est-à-dire que de façon générale, sur les choses évidentes pour lesquelles le président tentait de modifier le système ou d'œuvrer en parallèle ou à l'extérieur du système, les tribunaux l'ont toujours ramené à l'ordre. Donc, grosso modo, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Mais ce qui a été décidé aujourd'hui pour, entre autres, les agences fédérales, pardon, ça va bien au-delà de Donald Trump. C'est littéralement une révolution qu'on met en place. Je l'évoquais tantôt, hein, c'est 91 ans d'application d'une même interprétation. Et là, on dit finalement, le fédéral, la machine fédérale qui est indépendante du président, ben, cette machine-là, maintenant, peut être mise au service du président. C'est potentiellement ce à quoi on vient d'ouvrir la porte. Donc, les juges de la Cour suprême sont très conservateurs et c'est littéralement une décision qui vient donner à tous les conservateurs qui défendaient cette vision de la présidence et de l'exécutif une très grande victoire. Ma réserve à moi, casseux de party pour les plus conservateurs, vous pourrez me présenter comme ça, c'est ben, on devient de plus en plus partisan aussi. Puis partisan, c'est autant démocrate que républicain. Imaginons un démocrate qui entre à la Maison-Blanche et qui n'aime pas les nominations auxquelles procède Donald Trump présentement. Il peut changer toute la machine, ce qui n'était pas jusqu'à maintenant possible.
Ouais, puis les dangers de nommer des gens qui sont très près de toi et qui ont le même courant philosophique. Bon, on en a un bel exemple, puis je fais un pont avec le prochain sujet. C'est les États-Unis qui attaquent l'Iran sans véritable raison, en suivant Israël, et là, qui sont pris dans un gouffre exceptionnel là, pour la première puissance du monde.
Écoutez, c'est vraiment quelque chose, faut le faire, puis on s'attendait à ça en même temps, mais ce qu'on a décrété hier soir là, ou cette nuit tôt ce matin, c'est qu'on allait avoir un cessez-le-feu pour préserver le cessez-le-feu. Donc, nous en sommes là. C'est dire à quel point c'est complexe et c'est dire aussi à quel point Donald Trump, qui souhaite sortir de ce conflit le plus rapidement possible parce qu'il regarde les mêmes sondages que nous, parce qu'il ne veut pas investir plus qu'il ne l'a déjà fait, parce que les élections de mi-mandat approchent à grands pas, le président veut sortir de là, mais il est confronté à ce que ses prédécesseurs ont déjà vécu. L'Iran est reconnu, et c'est pas parce que ça va bien en Iran, mais les Iraniens sont reconnus dans les négociations pour se traîner les pieds, pour étirer les délais. Et dans ce cas-ci, c'est littéralement de la provocation, parce qu'on dit, si nous ne contrôlons pas le détroit, on ne va pas se parler. Donc, Donald Trump peut répondre, nous, c'est nous qui le contrôlons. Mais il est très clair qu'on joue de ça du côté iranien et qu'on joue ou qu'on teste les limites de la patience des Américains et de l'administration Trump tout particulièrement. Ils sont très bien informés, les Iraniens. Et ils le savent qu'il y a énormément de pression aux États-Unis, puis que l'horloge tourne, qu'on se rapproche des
Exactement.
élections.
Puis en même temps, ce conflit-là leur a donné ce pouvoir-là sur le détroit d'Ormuz, certains pouvoirs qu'ils pensaient même pas avoir autant.
Mais c'est ce que je trouve dommageable. On ne peut pas, puis je répète, c'est important parce que parfois on fait pas toujours les nuances. Je n'aime pas le régime iranien. Je considère
Ah,
que
oh, moi
ce
non plus.
régime, je considère que ce régime-là est brutal. C'est une gestion qui est archaïque, aucun respect des droits et libertés. Mais on ne parle pas de ça. On parle, est-ce que Donald Trump était bien entouré? Et s'il était bien entouré, a-t-il bien écouté les conseils avant de frapper l'Iran? Tu l'évoquais en me relançant tout à l'heure. On y serait allé, grosso modo, en réponse à du peddling, à de la mise en marché, où on a moussé le plan d'Israël. Mais il serait allé, en suivant, Netanyahou. Et moi, je me souviens que ses généraux lui avaient dit littéralement, ils peuvent pas dire au président, ne faites pas ça. Voici ce qui va se produire si vous le faites. Et ce qu'on voit dans la réalité, ben, c'est ce qu'a vécu Obama, c'est ce qu'a vécu Biden, c'est ce qu'a vécu George W. Bush, c'est l'Iran qui se traîne les pieds, mais qui a effectivement maintenant fait la preuve qu'on peut contrôler le détroit d'Ormuz. Et avant le conflit, ben, on circulait dans le détroit d'Ormuz. Donc, on est vraiment empêtré dans une situation qui demanderait beaucoup plus d'efforts encore, beaucoup plus d'argent et probablement des vies humaines si on veut faire ça dans des délais plus courts. Et c'est là où je disais, est-ce que Donald Trump saura être suffisamment patient? En a-t-il les moyens, le désir, la volonté? Ben, on verra.
Luc, la liberté, c'est toujours un bonheur de te parler. Je sais que tu prends des vacances très bien méritées pour les deux prochaines semaines. Donc, on se reparle à mon retour dans la semaine du 3 août.
Oui, ben écoute, je vais fêter le 4 juillet à la maison tranquille, mais je vais garder un œil sur les États-Unis puis je vous retrouve en grande forme puis avec un peu de soleil, on l'espère, dans 2 semaines.
Magnifique. Merci, Luc, d'être là pour nous. Salut. Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine pour nous sur vos comptes de Boulevard 101. Vous pouvez l'entendre également au 99.5 Montréal et sur les ondes de LCN. Et si vous ne le suivez pas, les producteurs des capsules La Liberté en clair sur les médias sociaux, ça s'écoute très bien. 5-6 minutes, c'est un résumé de l'actualité américaine. C'est vraiment très bien. Pascal, il y a 2 échanges dans le monde du Canadien. On va en parler avec Matt Paradis tout à l'heure vers 13h20. Là, il y a Brendan Gallagher qui vient d'être échangé.
On vient de savoir s'échanger aux Canucks, donc de Vancouver, contre des considérations futures. C'est l'information qu'on a en ce moment.
Oui, le Canadien retiendrait la moitié du salaire de Brendan Gallagher. Et il y a aussi Joshua Roy qui a été échangé au Mammoth de Utah. Contre un défenseur, là, un jeune défenseur de 23 ans polonais. On va en parler tout à l'heure aux alentours de 13h30 avec Matt Paradis. On va revenir aussi sur le repêchage de la Ligue nationale.
Ce qui est sorti dans les dernières minutes aussi, c'est considérant le feu de la Saint-Jean-Stonham.
Ouais.
Le maire est sorti et dénonce le manque de sécurité qui a entouré ce feu-là. Sur les réseaux sociaux, c'est plus de 400 commentaires face à des vidéos qui sont devenues virales. C'est pas un petit feu de la Saint-Jean et ça n'a pas l'air contrôlé du tout et c'est ça qui a dérangé.
Après la pause, on parle de ce moment historique. Schaffelberg's ball into the box, headed away by Ocon. It's Eustachio! Stefan Eustachio! In stoppage time! Might well have sent Canada into the round of 16! Qui l'aurait cru, le Canada en soccer qui passe au 8e de finale grâce à un but de Stefan Eustachio hier dans les minutes supplémentaires du match. Andy McFly, notre spécialiste de la Coupe du monde de soccer, sera avec nous dans quelques instants en studio. Puis on va également recevoir le chef du Parti conservateur, finalement, Éric Duhaime, qui va venir s'installer en studio avec son nouveau candidat dans Portneuf, Marcel Bouchard, au téléphone. On va parler de politique, mais on va surtout parler d'activité physique chez les jeunes. Moi et toi, on bouge. Moi et toi, on a encore notre santé. On le sait, les jeunes, énormément de temps d'écran à l'heure actuelle.
Je veux dire, Al Boivin, là, qui était recherché partout, n'a pas été capable de s'abstenir d'être sur ses réseaux sociaux.
C'est vrai, c'est comme ça qu'il était
pogné. Comment veux-tu contrôler ton enfant de 12 ans?
J'adore. On revient, ce sera pas long. Jusqu'à